Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler non pas d'une, mais de quatre plantes, surnommées les quatre cavalières de l'atropine. La mandragore,
la belladone,
la jusquiame
et le datura.
Car ces plantes ont une riche histoire de légendes et de superstitions. Pendant plusieurs siècles, on donna à la mandragore un caractère magique et des propriétés médicinales, qui ne sont malheureusement plus utilisées aujourd'hui. En revanche, les trois autres plantes le sont encore dans certains médicaments et beaucoup en homéopathie.
Ces plantes sont associées au féminin, que ce soit à des déesses, à des grandes prêtresses, à des magiciennes de la mythologie et forcément aussi aux sorcières. Leur beauté singulière, leurs usages, leur étymologie en font des plantes à part. Certaines envahissent de plus en plus les jardins et les parcs, comme le datura et la jusquiame, alors que d'autres sont menacées d'extinction, comme la mandragore et la belladone.
Alors nous parlerons dans cet épisode de la mandragore et de la datura, et nous ferons une suite le mois prochain pour parler de la jusquiame et de la belladone.
Chronique amoureuse des plantes mal aimées.
Présentée par Lo, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie, d'Aïla Naturo.
Mauvaise graine. Mauvaise graine.
Ces quatre plantes ont une histoire extrêmement riche, leur consommation remontant à plusieurs millénaires. En plus de leurs propriétés thérapeutiques, leurs propriétés psychoactives ont servi à l'époque à des cérémonies magico-religieuses. Ces cérémonies existent encore dans quelques sociétés traditionnelles, notamment chez les Indiens d'Amérique, les Yanomami du Brésil et du Venezuela, les Mixtecs du Mexique. Aujourd'hui, on les utilise aussi à des fins récréatives.
Elles ont donné lieu à plein de croyances et de fantasmes. Par exemple, au Moyen-Âge, selon la légende, les sorcières utilisaient trois de ces plantes, donc la mandragore, la belladone et la jusquiame, en onguent, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une crème, dont elles s'enduisaient pour pouvoir s'envoler sur leur balai.
Mais la perception générale que l'on a de l'usage de ces plantes est souvent éloignée de la réalité. Par exemple, pour démystifier le fameux onguent des sorcières, les rares témoignages de son utilisation émanent des procès où femmes et hommes étaient torturés pour obtenir des aveux concernant leur participation supposée au sabbat. De plus, les femmes chez qui on a retrouvé des préparations à base de ces quatre plantes étaient pour la plupart des sages-femmes qui utilisaient ces préparations pour soulager certaines affections, souvent liées à la sphère féminine. Leur utilisation pour la participation au sabbat fait partie de l'imaginaire et des fantasmes masculins des inquisiteurs, car on n'a pas pu prouver leur réalité.
La légende du datura, dite aussi herbe du diable, aurait décimé les armées de Marc-Antoine, qui en aurait mangé par erreur. Plus récemment, les habitants de la ville de Jamestown, en Virginie, l'ont pris pour des épinards et malheureusement ont été victimes de graves hallucinations. Ils ont échappé à la mort de justesse.
En août 1992, plusieurs personnes sont mortes en France pour avoir absorbé des tisanes confectionnées à partir de cigarettes anti-asthmatiques à base de datura. Ceci a provoqué l'interdiction de cette plante et explique aussi leur mauvaise réputation. Pour comprendre leur effet, intéressons-nous d'abord à leur botanique.
Alors, elles font partie toutes les quatre de la famille des Solanacées. Il faut savoir que la plupart des plantes de cette famille contiennent des principes actifs agissant sur le cerveau. Et ils provoquent des troubles fonctionnels comme la confusion, l'agitation, la convulsion. Et cela peut aller jusqu'au coma. Mais elles ont aussi un pouvoir hallucinatoire. Les quatre plantes que nous étudions possèdent en commun des alcaloïdes puissants qui sont l'atropine, la scopolamine et l'iocyamine. Pas facile à dire. Cette famille de plantes compte environ 2000 espèces dont les plus connues sont consommées comme la pomme de terre, la tomate, l'aubergine et le tabac. Elles présentent quelques caractères communs. Elles sont des herbes. Elles sont bien représentées dans la zone tempérée et froide. Et la fleur a une symétrie bilatérale et comporte souvent 4 étamines. Le feuillage est plutôt alterne. La famille des Solanacées est regroupée autour du genre Solanum. Linné nommait les plantes de cette famille les tristes, car les feuilles ont plutôt un aspect tombant avec des couleurs assez ternes.
le monde va mal. Ma 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 ma, 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 l'économie. Ma 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 ma, la pandémie. Ma 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 ma, l'homophobie. Ma 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 ma, les sans-abri. Ma 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 ma, les dépressions. Ma 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 ma, la récession. Ma 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 ma, l'écologie. La non-culture, ma 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 ma, le nucléaire, ma 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 ma, l'ours polaire, ma 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 ma, crédit social, ma 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 ma, délit facial, ma 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 ma, les idées, ma 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 ma, la libido, ma 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 ma, les pronostics, ma 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 ma, tout pour le fric, ma 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 ma, le monde.
D'écouter le groupe Poison qui interprète Le monde va mal. Commençons par la plus célèbre de ces quatre cavalières, la mandragore.
Alors, de son étymologie, mandragore vient du latin mandragoras, tiré lui-même du grec. L'étymologie du mot grec est assez obscure. Pour certains, le grec mandragoras viendrait du nom de la mandragore en assyrien, Namtar-Ira, qui signifie la drogue de Namta. Namta étant un démon pestilentiel provoquant des maladies. Pour d'autres, l'origine viendrait du sanskrit mandros signifiant sommeil et agora signifiant substance. Donc substance donnant le sommeil, ce qui semble logique vu les propriétés hypnotiques de cette plante, comme on le verra plus tard dans la partie médicinale.
Alors la mandragore, donc on a dit que c'était une plante herbacée, vivace. Elle est plutôt présente sur le pourtour méditerranéen. Elle a une apparence assez banale, avec des fleurs violettes, mais ne comporte pratiquement pas de tige. Et par contre, elle dégage une forte odeur. Les parties aériennes de la plante ne sont pas très hautes, seulement une trentaine de centimètres. Les grandes feuilles sont molles, près du sol, un peu comme une laitue. Contrairement à sa racine pivot, qui peut atteindre des dimensions impressionnantes, jusqu'à 80 cm et peser plusieurs kilos. Sa forme, souvent andropomorphe, lui donne une apparence humaine, avec un tronc, des jambes et même, en étant imaginatif, une tête et un sexe. Et elle est à l'origine de nombreuses légendes.
Lorsque les conditions sont favorables, la plante peut fleurir deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Ses fleurs sont blanches ou mauves. La mandragore donne ensuite naissance à des baies jaunes ou rouges. Et à maturité, ses fruits juteux sont comestibles, mais attention, en quantité modérée. Maintenant, voyons ses propriétés médicinales.
Alors en Europe, à partir du 9e siècle, dans la littérature médicale, on trouve une série de recettes pour endormir. Elles comportent de l'opium, de la mandragore et de la ciguë aquatique et de la jusquiame. Au XIIe siècle, à l'école de médecine de Salerne, Nicolaus Praepositus prônait aussi l'usage d'une éponge soporifique dans certaines opérations chirurgicales. Elle était imbibée d'un mélange de mandragore, de jusquiame, de jus de mûre, de laitue et de lierre.
En 1550 avant Jésus-Christ, déjà, la mandragore est mentionnée sur le papyrus d'Ebers de l'Égypte pharaonique, où elle voisine aussi avec des plantes comme l'opium, le chanvre et la jusquiame.
Alors, cette plante est riche en alcaloïdes psychotropes, environ 0,4% de tous les alcaloïdes présents dans la plante, et d'autres composants nocifs. Parmi les composants, nous avons l'atropine, dont la grande concentration se trouve dans la racine durant la floraison. Mais il y a aussi la yosiamine, la scopolamine, qui serait le premier sérum de vérité, l'apotropine, la belladonine, présente elle dans la racine sèche, mais non décelée dans la racine fraîche, et enfin la mandragorine, présente aussi chez les daturas, les belladones et aussi les feuilles de coca.
Alors attention, car ces molécules peuvent être à l'origine d'une intoxication mortelle. Et la mandragore est aussi mortelle que la belladone.
Voilà, et ces substances entraînent aussi une dilatation des pupilles, des hallucinations et peuvent provoquer jusqu'à un sommeil artificiel. De multiples vertus thérapeutiques lui sont attribuées grâce à sa composition chimique. On l'a vu, elle est sédative, hypnotique, hallucinogène, mais aussi antispasmodique, anti-inflammatoire appliqué en cataplasme, donc sur la peau en externe, utilisée notamment pour soulager les douleurs articulaires.
D'ailleurs, on en a retrouvé dans un site turc antique, dans l'atelier de préparation des potions pour athlètes, sans doute pour ses propriétés antidouleurs.
Alors, il faut savoir que les principes actifs agissent aussi donc par application sur la peau et passent directement dans la circulation sanguine.
D'ailleurs, c'est de là que viendrait la légende des sorcières et de leur balai, car elle aurait utilisé un bâton pour s'enduire les muqueuses du fameux onguent afin d'éviter le surdosage.
La plante est également utilisée par les guérisseuses, notamment pour faciliter les accouchements, mais aussi contre les morsures de vipères. Donc c'est une plante très polyvalente. Alors avec la théorie des signatures, qui consiste à déduire l'usage de la plante d'après son apparence, on disait qu'elle avait aussi des propriétés aphrodisiaques, car la forme des racines évoque le sexe masculin ou féminin. Ça dépend des écrits.
Elle aurait aussi aidé la fécondité, en consommant ses fruits. Cette croyance est liée à l'histoire de la Genèse avec Rachel, la femme de Jacob, qui était stérile et qui aurait réussi à concevoir un enfant grâce à la consommation de ses fruits. D'ailleurs, on les appelait les pommes d'amour.
Alors, en Grèce antique, Hippocrate préconisait l'utilisation modérée de la mandragore sous forme d'alcoolat pour traiter la mélancolie et soulager la tristesse chez les patients en proie à des pensées suicidaires. Il la recommandait non seulement comme antidépresseur, mais aussi comme antispasmodique, sédatif et même en traitement contre les hémorroïdes. Hildegarde de Bingen, elle, de son côté, reprenait les méthodes de traitement de la mélancolie, déjà explorées par Hippocrate, et elle suggérait de faire tremper la mandragore dans une fontaine pendant une journée et une nuit, puis de la placer dans le lit d'une personne mélancolique tout en récitant une prière. Il existe diverses manières de transformer cette plante. D'une part, il y a le suc qui est extrait de la tige, des feuilles ou du fruit. La racine, elle, est débitée en rondelles et transformée sous forme d'alcoolature dans du vin. Et enfin, les fruits sont utilisés séchés. Et maintenant, découvrons comment la récolter.
S'il y a bien une plante qui a une réputation sulfureuse, c'est bien la mandragore. Et paradoxalement, c'est ce qui a failli la faire disparaître. En effet, sa réputation est si grande dans le monde entier que, encore aujourd'hui, les jardins botaniques qui la possèdent l'étiquettent sous un faux nom pour ne pas qu'on la vole. Déjà au Moyen-Âge, elle faisait l'objet d'un trafic lucratif et on n'hésitait pas à la voler dans les herboristeries et chez les apothicaires. Et même certains n'hésitaient pas à proposer une racine d'une autre plante à sa place.
Pourquoi un tel engouement pour cette plante perçue comme un végétal malfaisant qui use de sa puissance et foudroie tous ceux qui veulent s'en emparer ?
Eh bien parce qu'elle attire à ceux qui la portent la santé, la prospérité, la chance, voire la jeunesse éternelle. Alors ça vaut bien tout un rituel compliqué pour la déterrer. Et oui, pour la déterrer, il faut tout un rituel. Il faut une corde, des bouchons d'oreilles en cire, une jeune fille et un chien noir. De préférence, la nuit et à la pleine lune, c'est encore mieux. Si en plus on se trouve sous un gibet, c'est le mieux. Car les racines de mandragore sous les gibets sont beaucoup plus rares. On prétend qu'elles naissent de la semence dépendue et ça leur apporte une vitalité supplémentaire. Comment on procède ? Eh bien, pour commencer, on va tracer trois cercles autour de la plante avec un poignard consacré. On va commencer à creuser pour dégager la racine, tout ceci accompagné d'incantations. On place une jeune fille à côté de la racine pour lui tenir compagnie. Puis on l'entoure avec une corde au chien qui va tirer très fort pour la déterrer. La plante émet alors un cri d'agonie tellement puissant qu'il tue le chien immédiatement et tous ceux qui n'ont pas les oreilles bouchées à la cire. Après lavage, macération et maturation dans un linceul, elle reste fidèle à la personne qui la possède et s'en occupe comme un démon familier. Alors, la religion vaudou et le rituel de zombification va me permettre de faire un lien et une transition entre la mandragore et la datura. En effet, la mandragore est utilisée avec d'autres plantes, dont le datura, dans ce processus en Haïti. Cette pratique consiste à réduire en esclavage une personne pour le punir d'un méfait.
Et le plus fou, c'est qu'apparemment, ça existe encore, cette pratique. C'est quoi le processus ? Comment on transforme une personne en zombie ?
Alors, on donne à la victime un mélange de plantes, dont la mandragore, additionné de la toxine du poisson globe, qui met la victime dans un état proche de la mort. On l'enterre pendant plusieurs jours, puis le zombie est extrait de sa tombe et on lui administre immédiatement et le lendemain une pâte à base de datura qui secoue et réveille le zombie, puis provoque délire et vision, et aussi une amnésie partielle qui rend la victime complètement sous la coupe de ses ravisseurs.
C'est pratique.
Cet usage rituel est confirmé par la médecine, car l'atropine est un antidote de la toxine du poisson globe. Pour continuer avec le datura, en Inde, elle est dédiée à Shiva, le créateur, l'un des trois dieux principaux de l'hindouisme. Il est aussi connu en Inde que les voleurs en faisaient manger à leurs victimes et les thugs, adorateurs de la déesse Kali, s'en servaient pour endormir les personnes destinées à être sacrifiées à la déesse.
Et c'est encore utilisé aujourd'hui parce que les voleurs colombiens l'ont mis en spray pour mettre hors d'état de nuire leurs victimes pendant qu'ils les dévalisent et même ils ne sont plus capables de se rappeler ce qui est arrivé.
La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, 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 Datura.
Yeah.
Vous venez d'entendre Hierba del Diablo du groupe Datura. Et nous allons vous parler plus en détail de cette plante. De son étymologie, le terme de Datura est d'origine indienne, du sanskrit même, et nous a été transmis par l'intermédiaire du portugais. Il a été vulgarisé en français par l'intermédiaire du latin scientifique des droguistes et des herboristes.
Alors maintenant, voyons la botanique. Les Datura, il en existe des dizaines d'espèces du genre Datura. Mais la plus connue en Europe, c'est la Datura stramoine, appelée en latin stramonium. Elle est aussi surnommée trompette des anges ou pomme épineuse. Elle mesure entre 30 cm et 2 mètres de haut et pousse plutôt sur des terrains incultes. C'est aussi la mauvaise herbe dans les vergers et les vignes. C'est une annuelle, donc elle repousse chaque année. Elle a des feuilles qui ressemblent plutôt à des feuilles de platane et elle pousse de manière alterne sur la tige. Les fleurs sont en forme de calice qui forment un tube se terminant par 5 lobes. Les fruits, eux, ressemblent à des bocs de marron d'Inde, avec à l'intérieur les graines. Et elle contient des alcaloïdes hallucinogènes qui sont contenus à la fois dans les feuilles, mais surtout dans les graines. La Datura est utilisée depuis de nombreuses époques à travers le monde. Les parties de la plante utilisées varient en fonction des peuples. Les feuilles sont fumées pour soigner l'asthme en Afrique. Les racines hallucinatoires utilisées pour les cérémonies de passage à l'âge adulte chez les Indiens algonquins. Ou un mélange de graines, de racines et de feuilles dans le tesquino, une bière de maïs, utilisée par les Tarahumas du Mexique. En Inde, la Datura stramoine est utilisée chez certains peuples pour traiter l'épilepsie. Alors, au XIXe siècle, la Datura a été utilisée par des médecins pour guérir les troubles mentaux. Les dosages étaient progressifs et le médecin psychiatre Jacques-Joseph Moreau aurait obtenu de bons résultats avec cette méthode. 50% des cas étaient améliorés et 30% complètement guéris. C'est étonnant quand on sait que la plante est hallucinogène. Mais cela arrive souvent qu'une plante soigne ce qu'elle provoque.
C'est ce qu'on appelle le principe psychomimétique.
Tout comme la mandragore, elle possède aussi des vertus sédatives, connues peut-être depuis la préhistoire. Dans le célèbre livre « Les enfants de la terre » de J.M. Howell, on y découvre l'usage anesthésique, calmant et soporifique. En Chine, du Xe au XVIIe siècle, elle était utilisée dans un mélange de vin et de cannabis, préconisé comme anesthésique ou bronchodilatateur. De nos jours, les Datura ont prouvé leurs propriétés sur le système nerveux central, notamment grâce à un des composants chimiques, la scopolamine, qui a cette fonction sédative, tranquillisante, même légèrement euphorisante.
Et c'est pour cette raison qu'elle a été utilisée jusqu'à récemment pour prévenir le mal des voyages.
Les Datura n'ont cependant pas encore dévoilé toutes leurs propriétés médicinales. De récentes études ont montré une action antioxydante, avec la Datura inoxia et la métel. La Datura stramoine, elle, en association avec le souci, la sauge, a démontré une action dans le traitement des leishmanioses cutanées, c'est-à-dire des lésions de la peau provoquées par un parasite. On peut l'utiliser sans danger en homéopathie, stramonium 9CH, 12CH ou 15CH, une fois par jour, en cas de spasme, de terreur nocturne, de troubles du sommeil, de fièvre ou de toux. Attention, ne pas pratiquer d'automédication avec ces quatre plantes, car comme on l'a vu, elles sont extrêmement toxiques, même avec un faible dosage et aussi par voie cutanée.
Donc la datura est particulièrement toxique car elle induit un état de conscience comparable au délirium très mince avec psychose et hallucination. La distinction entre environnement extérieur et monde intérieur devient impossible. Et attention parce que cette intoxication, suivant les doses, peut persister entre 8 heures et même jusqu'à 3 semaines. Alors, les signes de l'intoxication à la stramoine se manifestent d'abord par une soif intense, une vision floue et la phobie de la lumière à cause de la dilatation de la pupille. La peau devient rouge et brûlante, la température monte, le cœur bat plus vite et la pression augmente. Suivent le délire et des mouvements violents qui rendent le sujet dangereux et des convulsions précèdent un sommeil narcotique profond ou un coma qui peut aller jusqu'à la mort.
Pour conclure, malheureusement, les sorcières n'existent plus et leurs savoirs liés à l'usage de ces plantes se sont perdus. Mais pas tout à fait, car aujourd'hui en médecine, ces plantes sont très utiles pour soigner de nombreuses affections et sûrement qu'ils ont été repris de l'usage de ces sorcières.
Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission.
Nous nous retrouvons le mois prochain, le 12 mars, avec la suite des aventures des quatre cavalières.
En attendant, n'oublie pas de visiter notre page Instagram, De Mauvaises Graines, pour nous laisser messages et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir et suivre nos actualités.
Vous pouvez nous retrouver toutes nos émissions sur le site JetFM, sur Spotify et Deezer. À bientôt.
Au revoir.